Le Mali veut ramener la CEDEAO vers l'Afrique. Depuis les sanctions imposées par la CEDEAO contre le Mali au mois de janvier, il est clair que l'organisation a creusé sa propre tombe. Mais au lieu de détruire cette institution qui est instrumentalisée par les puissances extérieures au continent, Bamako veut faire en sorte de ramener cette organisation vers l'Afrique, plutôt que de la laisser encore entre les mains des Occidentaux. Que fait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest par rapport au Mali ? Les chefs d'État se réunissaient très souvent sur le Mali et depuis fin mars, c'est le silence. Et on a entendu parler de la CEDEAO concernant les coups d'État de Guinée et du Burkina Faso où elle demandait un chronogramme précis de la transition de ces pays. Mais la situation du Mali, donc sur cette situation, la CEDEAO semble être en pause, sinon même en panne. Personne ne sait pourquoi le dossier n'évolue pas. Plus de 4 mois après les lourdes sanctions prises en réalité contre le peuple malien et les peuples ouest africains, serait-il grand temps donc de lever les sanctions qui donc touchent le Mali après le coup d'État donc du Burkina survenu après celui de la Guinée? Les sanctions sont-elles encore dissuasives? La CEDEAO peut-elle sanctionner le Mali, laisser le Burkina et surtout rester impuissante face à la Guinée sur laquelle elle n'a aucune emprise, pas enclavée, possédant son port et sa monnaie? Avec le temps, les sanctions touchent de plus en plus donc aussi les pays des pères fouettards comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo pour ne citer que cela. Continuer dans cette voie des sanctions donc qui sont contre-productives ne contribuera-t-elle pas à affaiblir, sinon même liquider la CEDEAO? La CEDEAO a-t-elle pris conscience qu'avec donc la guerre en Ukraine, les compétitions impérialistes sur le continent s'exaspèrent? Le 9 janvier 2022, la CEDEAO a adopté de lourdes sanctions donc contre le Mali parce que le gouvernement malien n'a pas courbé les chines face à Paris. Ces sanctions ne composaient donc seulement d'un embargo commercial, sauf sur les produits de première nécessité, les hydrocarbures et sur les transactions financières. Le gros des sanctions porte sur le gel des comptes du Mali auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui coupe le Mali du reste du monde en lui enlevant la passerelle donc financière par laquelle il agissait. La Cour de justice de l'UEMOA donc, a le 24 mars 2022 ordonné la suspension des sanctions de cette institution, mais ni l'UEMOA ni la CEDEAO n'ont réagi à cette décision. Pourquoi une absence soudaine de proactivité de la CEDEAO alors qu'elle était à la manœuvre, toute affaire cessante pour les sanctions? Les peuples ouest africains souffrent assez des sanctions donc, du Mali et il est urgent de les lever car elles se sont avérées inopérantes et ne ciblent pas du tout le pouvoir en place. Du reste, le Sénégal est aussi touché par la baisse de cette recette douanière enregistrée par ces sanctions. Et d'ailleurs, il semble également que Dakar ne respecterait pas l'embargo selon certaines informations. Si la politique des sanctions est maintenue, le Burkina donc serait le prochain et les ports de Lomé, d'Accra et d'Abidjan devraient aussi connaître des baisses de recettes. Si le Mali est toujours debout, c'est dû à la forte capacité de résilience du peuple malien qui a appris à vivre et surtout à se battre aux côtés de son gouvernement. L'urgence est donc de rebâtir la CEDEAO car elle est utile au peuple pour voyager, ne serait-ce que cela déjà. Il faut que les États s'unissent face aux nouveaux défis de la sous-région, le terrorisme et ses conséquences humanitaires et les compétitions impérialistes pour faire moins main basse donc sur les richesses des pays africains. Si la France a échoué donc dans ces pays, ce n'est pas une raison pour tenter de rattraper le coup. La France a échoué, un point c'est tout. L'union des pays africains vaincra tous les maux de la région ouest africaine. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel car cet organe était entre les mains de la France. Et sans le Mali, le G5 pourrait bien exploser assez vite. Aucune puissance impérialiste n'aime les peuples, donc il vaut mieux se rallier à ses voisins qu'à des puissances qui ne veulent que la destruction du continent africain. Lors de sa visite à Moscou, donc cette semaine, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait clairement annoncé « Le Mali n'a pas de problème avec les organisations sous-régionales, mais ces organisations sont instrumentalisées par des puissances non africaines pour pouvoir régler des comptes politiques avec l'État malien, qui a fait des choix qui ne conviennent pas à ces entités. Il faut qu'entre Africains, nous revenions au sein de nos propres institutions, mettre nos génies ensemble, renforcer notre solidarité pour pouvoir trouver chaque fois des solutions africaines. Faire sortir les organisations africaines des griffes des Occidentaux, voilà l'objectif que Bamako s'est fixé. L'Afrique aux Africains, la résolution des problèmes en Afrique par les Africains, voilà ce qui peut réellement régler les problèmes sur le continent africain. Au Mali et un coup de plus contre Paris. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, s'est entretenu le 20 mai avec le ministre donc, des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, qui était à Moscou en visite de travail. Lors des négociations, une attention particulière a été portée à la situation au Mali. Et du côté russe, il a été souligné que dans ces circonstances, les autorités de transition maliennes prennent des mesures ciblées pour parvenir à l'unité et à la stabilité intrapolitique. Des travaux programmés sont en cours pour préparer des élections démocratiques libres. Les questions d'actualité de l'activation de la coopération russo-malienne dans les domaines politiques, commerciaux, économiques, humanitaires et autres ont été discutées de manière constructive. Les perspectives d'expansion, des contacts donc d'affaires entre Moscou et Bamako, la mise en œuvre de projets communs dans le développement et le développement des réserves de matières premières minérales, l'énergie, le développement des infrastructures et l'agriculture ont été évoqués. Les ministres ont tenu un débat approfondi sur les principaux sujets de l'ordre du jour mondial et régional, y compris la situation en Ukraine. L'accent a été mis sur le règlement des conflits et la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, y compris dans la région du Sahara-Sahel et l'Afrique de l'Ouest en son ensemble. La priorité des méthodes politico-diplomatiques pour débloquer donc les situations de crise sera mise en évidence avec le rôle de premier plan des Africains eux-mêmes et l'appui de la communauté internationale. Un haut niveau d'entente politique entre la Russie et le Mali et la volonté de renforcer la coopération au sein de l'ONU et d'autres formats multilatéraux ont été confirmés. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé la mentalité coloniale de la France et de l'Europe au Mali lorsqu'il a reçu le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Lavrov a déclaré lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue malien que la France a exprimé son mécontentement face à la volonté des autorités maliennes de demander l'aide des forces de sécurité étrangères et cela indique sa mentalité coloniale enracinée dont les Européens auraient dû se débarrasser d'il y a assez longtemps. Il a ajouté que le danger réel est d'attaquer le Mali et les millions maintenant en raison de l'émergence d'enclaves chaotiques dans lesquelles les combattants apprenant à des groupes armés illégaux se déplacent librement et cette affaire menace l'intégrité territoriale du pays. Il a poursuivi donc que nous comprenons mais nous n'apprécions pas les tentatives de la France et d'autres pays de l'Union européenne de prétendre jouer un rôle dominant sur le continent africain et d'autres régions. La France cherche à imposer son comportement au Mali à un moment où il peut communiquer avec lui, ce qui est inacceptable. Le ministre russe des Affaires étrangères a donc exprimé la disponibilité constante de Moscou à apporter le soutien nécessaire au gouvernement du Mali, donc qui est contrôlé par le Conseil mini des militaires pour accroître les capacités de combat des forces armées maliennes, notamment dans la formation du personnel militaire et policier. Lavrov a souligné que la Russie continuera à livrer au Mali des matériaux tels que du blé et des engrais organiques, en plus des produits pétroliers, malgré les sanctions auxquelles elle est soumise en raison de son opération militaire en Ukraine qui a entravé sa capacité à exporter et les craintes croissantes d'une crise alimentaire mondiale, affirme-t-il. En mars dernier, le Mali ainsi que 35 pays se sont abstenus de voter sur une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'opération militaire russe en Ukraine. L'époque des langues de bois est révolue et il est clair que l'attitude néocoloniale de la France et de ses alliés occidentaux ne passe plus du tout inaperçue comme dans le temps. En République démocratique du Congo, donc l'expulsion de l'ancien chef du Mossad de la RDC selon des révélations de deux marqueurs. Yossi Cohen, ex-directeur du Mossad, aurait effectué trois mystérieux voyages en République démocratique du Congo en compagnie de Dan Gertler avant d'en être expulsé, comme l'indique un site israélien de marqueurs appartenant donc à Haaretz, l'un des plus grands quotidiens d'Israël. D'anciens hauts responsables du Mossad ont qualifié la conduite de Yossi Cohen de folie après 3 voyages au Congo au nom du régime génocidaire israélien à des fins problématiques dont la publication est interdite, comme l'indique le site d'information de Marker, précisant que les visites n'ont pas été coordonnées avec le gouvernement congolais et se sont terminées par son expulsion. Selon Bloomberg News, rappel de Marker, Yossi Cohen, patron du Mossad de 2016 à 2021, s'est rendu 3 fois en République démocratique du Congo, accompagné du milliardaire Dan Gertler, un homme d'affaires soupçonné par les autorités d'avoir versé un énorme pot de vin de 360 millions de dollars en échange de droits miniers au Congo. Au cours de chacune de ses visites, comme l'indique DeMarker, Yossi Cohen a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi. Ses visites au Congo ont été une surprise pour Tshisekedi, qui a été donc choqué de découvrir que le chef d'une agence de renseignement étrangère était dans son pays sans invitation officielle ou avertissement préalable, explique-t-il. Donc, lors de sa première rencontre avec le chef de l'État, en présence de plusieurs de ses assistants ainsi que Gertler, indique-t-on, Yossi Cohen aurait proposé son aide sur diverses questions comme l'obtention de technologies de défense. Le 10 octobre 2019, Yossi Cohen aurait effectué sa deuxième visite en RDC. Et ce jour-là, Tshisekedi s'est envolé dans son avion présidentiel de la ville de Goma, dans l'est du pays, vers la capitale Kinshasa. Et peu après son décollage, un autre avion de son entourage a également décollé, mais s'est écrasé peu après. Selon divers rapports, le chauffeur du président, donc plusieurs employés du bureau du président et quelques soldats se trouvèrent à bord de cet avion et personne n'a survécu au crash selon ces rapports, comme le rapporte le site. La crainte d'un coup d'État, évidemment, après la deuxième rencontre de Cohen avec le président de la République, l'entourage de Félix Tshisekedi est devenu suspicieux quant aux motivations du chef, donc du Mossad. Certains des assistants de Tshisekedi ont même exprimé la crainte que Cohen préparait une tentative de coup d'État en RDC, comme l'a fait savoir certains médias. Et quelques semaines plus tard, Yossi Cohen a effectué son troisième voyage au Congo, et cette fois à la tête d'une plus grande délégation. Une fois de plus, il a tenu une réunion imprévue avec Félix Tshisekedi et certains membres de son cabinet dans le bureau de ce dernier à Kinshasa. Cohen a une fois de plus parlé en slogan vague de la coopération entre les pays. Mais Tshisekedi était à bout de nerfs et à bout de patience. À un moment donné, il a demandé à son personnel de quitter la pièce pour qu'il puisse être seul avec Cohen. À la fin de leur brève conversation, Cohen a reçu l'ordre de se rendre directement à l'aéroport, escorté par les forces de sécurité locales, de quitter le pays et de ne surtout pas revenir. Le chef du Mossad a donc été effectivement expulsé, une mesure sans précédent et humiliante, après une série de rencontres non programmées. Cette visite montre également les liens étroits entre le fameux homme d'affaires, donc Dan Gertler, censé donc mener des affaires, et le Mossad, et surtout la raison pour laquelle le gouvernement de la RDC a lancé une offensive contre l'Israélien Gertler. Tout comme ses alliés occidentaux, Tel Aviv se croit également en terrain conquis lorsqu'il se rend en Afrique. Plus encore, c'est ce régime qui est à l'origine de troubles sur le continent en fournissant armes et munitions aux nombreux groupes rebelles pour y créer l'instabilité nécessaire pour mener à bien les plans de ses alliés. Ce qui fait que les craintes de Kinshasa sont totalement fondées. Israël est notamment très présent au Soudan du Sud avec l'affaire de l'ex-général accusé d'avoir vendu par l'intermédiaire de plusieurs sociétés spécialisées dans l'agriculture pour 150 millions d'armes aux groupes rebelles dans le pays et même au gouvernement sud-soudanais, alors que le pays est censé être sous embargo par la communauté occidentale. Ce qui fait que la RDC est actuellement dans le collimateur de Tel Aviv et surtout que Kinshasa n'a pas cédé aux nombreuses pressions d'Israël. Les hommes d'affaires israéliens sur le continent africain, comme ce fameux Dan Gertler en RDC, ou encore Benny Steinmetz en Guinée, sont clairement des agents du Mossad qui, au passage, sont présents pour se faire de l'argent en se croyant au-dessus des lois, bafouant par la même occasion la souveraineté des pays africains. Il serait temps que l'Afrique remette les néocolons à leur place. Fini l'époque de la colonisation.
Au-delà de la coopération militaire, le Mali et la Russie entendent étendre leur partenariat dans le domaine économique et commercial, notamment dans l'approvisionnement d'hydrocarbures, d'intrants agricoles, du blé et du ciment. L'annonce a été faite par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Abdoulaye Diop et Sergueï Lavrov. Si la coopération militaire entre le Mali et la Russie a été une réussite, les deux parties entendent élargir cette coopération dans d'autres domaines. Cette visite d'une délégation ministérielle malienne à Moscou a été l'occasion pour le chef de la diplomatie malienne d'expliquer les raisons des sanctions de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre le Mali. Le Mali n'a pas de problème avec la CEDEAO et l'Union africaine, mais ces organisations sont instrumentalisées par des puissances non africaines pour pouvoir régler des comptes politiques avec l'État malien qui a fait des choix qui ne conviennent pas à ces entités, et je crois que c'est ça le problème, a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le Cameroun est le premier pays à bénéficier du programme Mesures d'accompagnement banane de l'Union européenne. L'enveloppe d'environ 31,6 milliards de francs CFA a permis la modernisation et l'extension du terminal fruitier du port de Douala et aussi la fourniture d'équipements et de systèmes d'irrigation aux producteurs locaux. Le 17 mai 2022, les nouveaux équipements du terminal fruitier du port de Douala ont officiellement été inaugurés. Les travaux de modernisation et d'extension de cette infrastructure ont duré près de 8 ans et coûté 4,7 milliards de francs CFA. L'infrastructure pourra désormais traiter jusqu'à 500 000 tonnes de bananes contre 300 000 tonnes par le passé. Macky Sall annonce qu'il va se rendre à Moscou et à Kiev au nom de l'Union africaine. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce dimanche 22 mai qu'il avait reçu le mandat de l'Union africaine pour se rendre en Russie et en Ukraine afin de porter la voix de l'Afrique. Le président sénégalais, président de l'Union africaine Macky Sall, se rendra à Moscou dans les semaines à venir à l'invitation de la Russie. « Je me rendrai naturellement à Moscou et aussi à Kiev, et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent de l'Union africaine avec le président Zelensky, qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'État africains. Cela aussi sera fait dans les semaines à venir », a-t-il déclaré. Le chef de l'État sénégalais souhaite que l'Union africaine contribue à une baisse des tensions entre l'Ukraine et la Russie et à ramener la paix par le dialogue. Nous travaillons pour une désescalade, nous travaillons pour un cessez-le-feu, pour le dialogue. C'est la position africaine, a déclaré le président Macky Sall. Au Nigeria, le gouvernement va utiliser plus de 407 millions de dollars du secteur privé dans la réhabilitation des routes. En vue de réduire le coût des réalisations des infrastructures dans le pays, les autorités du Nigeria ont mis en place un système leur permettant de partager cette charge avec le secteur privé, un système de crédit d'impôt dédié aux investisseurs privés. Le secteur privé nigérian va participer à la réhabilitation de certaines routes au Nigeria à hauteur de plus de 407,1 millions de dollars. L'annonce a été faite par le ministre des Travaux et du Logement Babatunde Fashola au cours d'une conférence de presse relayée par les médias locaux. Ces fonds serviront à la réalisation de deux projets. Le premier est la réfection d'une route de 234 km allant de Bali à Chetty pour un montant de plus de 228 millions de dollars. Selon le ministre, 48 millions de dollars sont déjà disponibles. Pour le second, ni la date du lancement du projet ni le nombre de kilomètres à réhabiliter n'a été précisé. Toutefois, la note indique qu'il coûtera plus de 178,2 millions de dollars.